Bien-aimés, joyeuse fête de Pâques. N'avons-nous pas tous toujours besoin d'une résurrection dans nos vies personnelles? La nature elle-même, d'ailleurs, en rend témoignage. Chaque année, il y a un nouveau printemps. Et à chaque fois, c'est une période de réjouissance, de revoir la neige fondre, écouter à nouveau les oiseaux chanter, gazouiller, voir les feuilles apparaître dans les arbres, le soleil luire de tous ses feux. On a l'impression qu'on reprend vie avec la création. Ainsi en est-il dans nos vies. Le Seigneur nous garde, mais on a constamment besoin, à l'intérieur de notre responsabilité, de nous garder dans sa garde, si vous passez l'expression. On a besoin d'être renouvelé, d'être ressuscité, d'être revigoré. Il arrive parfois qu'on se sent un peu mort dans nos âmes, un peu moins vivant, un peu plus agonisant. À quel point on a besoin de la présence de notre Dieu en toutes circonstances. J'aimerais nous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Dans quel livre? Dans l'Apocalypse, en effet. Et nous serons au chapitre 16 à nouveau, que nous avions d'ores et déjà entamé, et nous le terminerons, si Dieu le veut bien, aujourd'hui. Donc, encore une fois, une joyeuse fête de la résurrection à tous les ressuscités en Christ Jésus. Je n'ai pas choisi de thème particulier pour ce jour de Pâques. Ce n'est pas qu'on est complètement soumis ou ignorant du calendrier liturgique. Mais j'ai trouvé que le texte était tout à fait approprié pour Pâques. Est-ce qu'on peut trouver un texte où on parle d'une plus grande victoire pascale que l'Armageddon? La grande victoire finale, la grande manifestation finale de la victoire du Christ Jésus et de sa résurrection. Alors, je vous invite donc à ouvrir au chapitre 16 et nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. Le cinquième, bien sûr, il s'agit du cinquième ange. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. » D'entretien, on a entendu beaucoup de choses sur l'Armageddon. Il y a des comptoirs, il y a des murs de livres sur l'Armageddon, avec tel pays qui va arriver du nord, l'autre pays qui arrive, on ne sait pas trop où, hein, et tout le monde est impliqué, il y a les hélicoptères qui, en tout cas, je vous passe les détails. Vous savez combien de mythes on a écrit sur cette question de l'Armageddon. J'aimerais d'entretien vous dire que je ne suis pas un dispensationaliste sioniste. Je pense que vous vous en doutez un peu déjà. C'est-à-dire que je ne crois pas à la division de la Bible en différentes dispensations, non plus que je ne crois qu'il faille interpréter les prophéties à la lumière de l'Israël national. Rappelons-nous que le temple a été détruit et qu'on est passé à quelque chose d'autre. On est passé à l'Église du Christ Jésus. Je suis de l'école idéaliste qui croit que c'est un livre symbolique, l'Apocalypse. Un livre symbolique du conflit entre le bien et le mal avec la victoire du bien. Comme on l'a vu depuis le début, on a vu que c'est un livre d'un grand encouragement, d'un grand réconfort. Quand on regarde ce qui se passe, ça parle de notre quotidien en condensé et ça finit bien. Encore ici, nous nous situons dans la même période de temps, c'est-à-dire nous sommes à la fin de l'histoire. Et encore ici, ce qui nous est révélé, c'est un conflit sanglant. Un conflit sanglant pavé de terribles jugements et ces jugements-là viennent du ciel. Ceux qui rêvent d'un grand millénium de paix, qui imaginent que le royaume de Christ va graduellement avoir la victoire sur le royaume des ténèbres, sans grand bouleversement, vont trouver très peu d'encouragement, très peu de soutien dans ce texte que nous avons sous les yeux aujourd'hui, non plus que dans le reste du livre de l'Apocalypse. Je sais que je vise personne ici. Les méchants ne seront pas graduellement gagnés à la cause, mais seront réduits. Il y a des jugements en réserve pour eux, et la force de ces jugements-là n'ira pas en diminuant, mais elle va plutôt aller en s'accentuant en gravité. La fin des temps ne sera pas une période de paix, mais de guerre, d'une terrible guerre, comme le monde n'en aura jamais connu avec le résultat final de la victoire du Christ. Bien aimé, l'Église n'est pas là pour gagner la culture, mais pour glorifier notre Dieu et rendre témoignage à la vérité. Nous verrons donc aujourd'hui les trois dernières coupes de la colère finale de notre Dieu. Le symptôme le plus clair de l'endurcissement du cœur humain, c'est de voir l'incrédule blasphémer le nom de Dieu au moment où ces épreuves-là lui tombent dessus. Ce Dieu-là, le nom de Dieu, hein, blasphémer le nom de Dieu qui a l'autorité d'imposer ses plaies sur des pécheurs qui, somme toute, ne méritent pas mieux. Et dans ses blasphèmes, il démontre l'horrible effet de la marque de la bête qu'ils imitent lamentablement. Je pense que ça nous en dit extraordinairement long sur l'évangélisation. On est toujours étonné, on est toujours surpris de voir la dureté des gens, de les voir ou d'assister au fait qu'ils écoutent une prédication en emporte-pièce et c'est comme si rien ne s'était passé. Hein? On ne réalise pas à quel point le péché, l'esclavagisme du péché est une réalité frappante. Dans ces blasphèmes-là, ils démontrent donc l'horrible effet de la marque de la bête qu'ils imitent lamentablement, la marque de la bête. Que lisons-nous d'ailleurs en Apocalypse chapitre 13, verset 1, verset 5 et 6. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Verset 5 et 6, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Oui? Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Mais c'est précisément ce que nous voyons dans ce chapitre 16 que nous sommes en train de regarder. Et c'est l'agir de ceux et celles qui sont porteurs de la marque de la bête. On sait qu'on est porteur de la marque de la bête ou de la marque de l'agneau. Malgré que leur angoisse ne fait que confirmer la futilité de leur refuge en cette bête contre la fureur de l'agneau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent avec la même arrogance comme on le voit ici. Ici, au verset 11, et comme on le verra un tout petit peu plus loin également, au verset 21. Au verset 10, nous lisons, « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. » Ben, le contenu de cette cinquième coupe-là est donc versé directement sur le trône de la bête. On change un peu de mouvance. Hein? Avant, c'était sur la terre. Là, on tombe sur le trône de la bête. Le trône de la bête représente, bien sûr, son règne, sa souveraineté sur son royaume. Et le résultat de ce jugement-là, c'est que son royaume s'est vu couvrir de ténèbres. C'est un royaume de noirceur, en partant, couvert de ténèbres. On ne peut s'empêcher de penser à la neuvième plaie d'Égypte. On se rend compte très, très souvent dans l'Apocalypse qu'il y a beaucoup de corollaires hein, avec ce qu'on a vu dans l'Égypte. Exode, chapitre 10, versets 21-23, où le Seigneur amène les ténèbres sur le pays. L'Éternel, en effet, dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et qu'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. Il y aurait beaucoup d'applications à faire ici. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Il faut savoir que cette plaie d'Égypte, c'était une polémique contre Ra, un rat. Le dieu solaire, hein? le dieu du soleil chez les Égyptiens. Et de ce dieu-là, Pharaon se disait une incarnation. La plaie venait contre Pharaon en raison de sa désobéissance au commandement de Dieu. Oui, je vais laisser sortir le peuple de Dieu, mais dès que la plaie commençait à se calmer un peu, lui ne se calmait pas. Ça nous fait tellement penser à ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens dans la misère, même les plus endurcis, parfois crient à Dieu. Une fois que c'est passé, ben voilà. Les deux larrons en croix. L'un disait « Délivre-nous ». L'autre disait « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». L'un disait « Délivre-nous qu'on retourne voler ». C'est à peu près ça qu'il voulait dire, vous voyez, même s'il ne l'énonçait pas ainsi. L'autre c'était « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Où notre cœur est-il investi? C'est assez important. Hein? Plus tard, ce sera au tour de Rome de subir une plaie de cet ordre-là et pour les mêmes raisons. Le trône de la bête est identifié au trône de Satan. Rappelons-nous, Apocalypse 2:13, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Et ce trône fait référence, bien sûr, à Pergame, le « Oval Office » de l'époque, si vous me passez la comparaison. Le centre du gouvernement romain et du culte impérial qui, ultimement, était sous le contrôle de Satan. Conséquemment, il est tout à fait approprié que ce même jugement soit ici dirigé contre les dirigeants de ce monde qui oppressent les saints et ils les oppressent au profit de l'idolâtrie. Si on vient à la neuvième plaie d'Égypte, dans Exode 10, lorsque les ténèbres tombent sur l'Égypte. Il nous est rapporté que ces ténèbres-là étaient tellement denses qu'on ne se voyait pas les uns les autres. Ils étaient séparés les uns des autres, évidemment séparés de Dieu. Les ténèbres ne génèrent jamais de joie, non plus que d'épanouissement. Mais sont toujours porteurs de crainte, de peur et de marche à tâtons. Et souvent de fois d'angoisse. Oui. L'intensité de cette angoisse spirituelle aurait dû amener les Égyptiens à réaliser que leur méchanceté représentait un fardeau beaucoup plus lourd à porter que ces ténèbres-là. Et ce jugement temporel n'est que précurseur du jugement final des inconvertis qui seront jetés là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le règne de la bête a toujours été enveloppé dans la noirceur spirituelle, parce que son fondement n'est autre que le mensonge et l'illusion. Où est-ce que ça pourrait conduire, sinon que dans l'obscurité, que dans la noirceur spirituelle? L'apôtre Jean notera ailleurs que les gens coupables aiment les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'ils aiment les ténèbres? Parce qu'elles couvrent leurs mauvaises actions. Purement. Jean chapitre 3, verset 19-20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Rappelons également l'injonction de l'apôtre Paul dans son épître, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 11 à 13. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'y a aucun fruit dans les ténèbres, il y a des œuvres. On le voit dans Galates 5, hein, le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Alors, il y a les œuvres des ténèbres, mais jamais de fruits. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Quelle est la résultante d'une vie de ténèbres? Nous avons la réponse claire et nette au verset 10. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Nous, bien-aimés, on ne se mord pas la langue, mais on doit la garder en bride. On ne peut pas la laisser, on peut lui donner libre cours, on sait jusqu'où elle peut aller. Permettez-moi juste d'ouvrir mon 10-11, là, parce que ça, je reviens immédiatement après. Contrairement au royaume de la bête, la Nouvelle Jérusalem est une communauté où la vérité, la lumière prévaut. Vous allez me dire qu'il y a encore de la place pour l'amélioration, il n'y a personne qui en dit ce qu'on vient. Mais la réalité, c'est que la vérité et la lumière déjà sont sur place et doivent régner au sein de la Nouvelle Jérusalem. Selon Apocalypse 21, vous savez, c'est la cité où on n'a pas besoin du soleil et de la lune pour nous éclairer. Car la gloire du Seigneur nous illumine. C'est la lampe de l'agneau. Ça veut dire que nous sommes éclairés par la vérité, nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention à nos discours, aux paroles que nous prononçons dans nos échanges avec les autres. Ça a un effet, vous savez. On rencontre quelqu'un, on est un peu là, mortifère, et on lui partage l'état de nos âmes, et on lui communique finalement notre négativisme, puis qu'il communique à un autre, et ça crée toute une chaîne inutile de découragement, plutôt que d'être une église, une communauté d'espérance et d'assurance. Faisons attention au scénario que nous nous faisons dans le cœur. On se fait tous des scénarios dans notre cœur. Surtout lorsqu'on est tout seul et que les autres ne viennent pas nous débusquer, hein, on se fait des scénarios et on croit qu'on vient d'établir la vérité, qu'on vient d'être éclairé et voilà la situation et on s'en va avec cela. Faisons attention à cette fâcheuse et pécheresse tendance ancienne de n'être jamais satisfait. Notre satisfaction vient d'où? En Christ et en Christ seul. Si on cherche une satisfaction chez les autres, si on cherche une satisfaction dans les circonstances de nos vies, ça va être la frustration constante, voyons. Tenons abri de nos plaintes, nos mécontentements, nos discours négatifs, notre tendance à nous voir comme des victimes. Nous sommes appelés à être des héros de la foi. Soyons ce que nous sommes. Amen. À cet effet, permettez-moi de vous suggérer deux excellents ouvrages qui nous viennent de la plume des puritains. Le premier nous vient de Jeremiah Burroughs, « The Rare Jewel of Contentment », le rare joyau du contentement. Je ne sais pas s'ils l'ont fait en français. C'est vraiment, vraiment excellent. Le deuxième nous vient de Thomas Watson. On parle du grand monde, hein, quand même, là. Thomas Watson qui a écrit « The Art of Divine Contentment ». C'est vraiment de bonnes études bibliques sur la question du contentement et comment cultiver le contentement. C'est pas difficile de cultiver le mécontentement, hein? Il s'auto-cultive, c'est comme les mauvaises herbes, ça, hein? Mais cultiver le contentement, c'est une autre mouvance. Je m'excuse, j'ai une oreille qui fonctionne pas bien du tout. La sixième coupe maintenant, les versets 12 jusqu'au verset 16. Cette sixième coupe révèle des préparations pour la dernière bataille, la confrontation finale entre Dieu et ses ennemis. Et la route est préparée pour les envahisseurs. De quelle manière? Par le tarissement des eaux de l'Euphrate. Les eaux étant taries, ben ça rend le chemin libre pour les armées rassemblées par le discours du dragon, de la bête et du faux prophète, voyez-vous? L'Euphrate représentait la frontière entre Israël, la terre promise, et leurs ennemis. À l'époque de l'apôtre Jean, ce même fleuve d'Euphrate séparait Rome de son redoutable ennemi, les Parthes, l'Empire Parthe. La ville de Babylone était située sur l'Euphrate et dans l'Apocalypse, elle symbolise le système mondain idolâtre. Dans l'Ancien Testament, Dieu est toujours celui qui assèche les eaux. Soit pour la délivrance, soit pour le jugement. Mais il y a toujours une raison pour laquelle il assèche les eaux. Un simple exemple, l'assèchement de la mer Rouge. C'est important. Ça a permis, n'est-ce pas, ça a libéré le chemin de la rédemption pour Israël. Mais à l'opposé, le même processus d'assèchement a permis à Cyrus de vaincre Babylone. Ils sont entrés également par l'eau, voyez-vous, asséchés, et ça leur a donné une entrée, ce qui leur a permis de conquérir le pays. L'assèchement des eaux, c'est l'enlèvement des obstacles. Ici, le Seigneur assèche l'Euphrate pour préparer la voie au roi de l'Orient, aux différentes nations de la terre, pour la guerre de l'Armageddon. Bon, la plupart des commentateurs, et je pense qu'ils ont raison, considère que c'est symbolique du rassemblement des nations, de cette multitude. N'oublions pas que les nations, ce n'est pas une chorale où chacun fait sa partition et où tout le monde chante en harmonie. Les nations, c'est le désarroi, c'est le désordre. C'est tout le monde qui essaie de dominer sur tout le monde. Toujours une nation qui essaie d'être plus forte que l'autre, ça ne date pas d'hier. C'est l'histoire de l'humanité. On ne s'est jamais contenté de sa paroisse, on a toujours voulu aller chercher la paroisse du voisin aussi. Alors, la plupart des commentateurs considèrent que c'est symbolique du rassemblement des nations, cette multitude qui a toujours cherché à exercer une domination les uns sur les autres. Maintenant, il n'y a plus de division, voyez-vous, il n'y a plus d'Euphrate entre Rome et Parthes. Maintenant, c'est asséché. C'est la mise en commun d'un plan précis. Et dans le contexte qui nous occupe, pour éliminer l'Église. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours garder à l'esprit que l'Apocalypse présente une vision symbolique et non un récit historique des événements. Et ça devient clair lorsque nous voyons la réponse de Satan aux assauts des puissances du monde, au verset 13. « Je vais sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. L'enfer, cette puissance séculière et antichrétienne, et la puissance ecclésiastique vont employer, passez-moi l'expression, l'artillerie lourde. Hein? Nous sommes dans le combat ultime. Et ça nous ramène immédiatement en Égypte, encore une fois. Lors de la deuxième plaie d'Égypte, Exode, chapitre 8, versets 2 à 14, Dieu envoie une plaie de grenouilles. Ces dernières pénètrent dans les maisons, répandent leurs souillures et font entendre leurs bûches. Je ne sais pas ce que vous pensez des grenouilles, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient avoir un animal domestique batracien. Hein? On préfère des animaux d'une autre race. Alors, par le biais de cette trinité profane contrefaite, le dragon, la bête, le faux prophète, c'est-à-dire Satan, le règne de l'Antéchrist et les faux enseignants de l'Église organisée, ils vont pour l'assaut final par un dernier effort de séduction pour la préparation dernière. Et l'une des subtilités, vous savez c'est quoi? En tout cas, moi, elle m'a frappé dans la préparation de ce message. C'est l'implication du faux prophète. Ce sera la part de ce qu'on appelle l'Église. On parle toujours du besoin, et c'est un besoin impératif, d'être respectueux. On respecte toutes les Églises. Je pense qu'on se doit de le faire. On n'a pas la prétention de dire « nous, on l'a dans tout... si vous voulez avoir la vérité, venez-vous-en chez nous, on l'a en pleine étude. » Non, mais, alors on respecte toutes les Églises, tous ceux qui se revendiquent de prêcher la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je partageais avec un frère ce matin. Moi, je suis venu à l'Évangile dans les années 70. Il n'y avait pas beaucoup de monde de vivant à ce moment-là. Il y avait Mathusalem. Alors, dans les années 70. Et dans ces années-là, vous savez, tout le monde était suspicieux. Les dénominations ne se côtoyaient pas du tout comme c'est le cas maintenant. On avait une reconnaissance que les autres étaient des chrétiens, mais il y avait toujours un gros « mais ». C'est un libéral, ils ont ci, ils ont cela. Et pour les charismatiques, à l'époque, pour plusieurs, c'était démoniaque, voyez-vous. Mais comme dirait si bien le philosophe Hegel, il n'y a pas toujours eu tort, le monde tend à avancer de manière dialectique. Il y a eu cette fausse dialectique-là, maintenant on est passé dans l'autre extrême. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de nuance. Oui, on change de regroupement d'église, on change de doctrine, et ça semble que ça ne fait aucune différence dans la vie des gens. Je partageais avec le même frère tantôt, il y a un regroupement qui vient s'établir au Québec, un regroupement qu'on respecte beaucoup, c'est un regroupement réformé, qui accepte des gens d'un peu partout, vous voyez. On s'entend là, de penser réformé, des gens qui croient à la Westminster Confession of Faith, la catéchèse de Heidelberg, Confession de foi belge, les canons de Dort, la seconde Confession de foi de Londres et d'autres documents encore, plus ceux qui croient aussi au Federal Theology. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est l'Auburn Avenue Theology. Toute cette histoire qui a commencé à Monroe il y a plusieurs années, ça a donné à peu de choses près là, la nouvelle perspective sur Paul. Alors, on accepte tout cela au sein de ce regroupement-là. Il y a quelque chose de vertueux dans cette acceptation-là, mais sachant à quel point c'est difficile de conserver l'unité à l'intérieur d'une église et encore davantage à l'intérieur d'une association, on part avec deux prises ennemies. On part avec un potentiel conflictuel énorme. On n'a qu'à penser à la question du baptême, bien-aimé. On respecte nos frères pédobaptistes et on les aime d'un amour vraiment sincère. La plupart de nos livres dans nos bibliothèques ont été écrits par eux. Mais le fait demeure que le baptême, ce n'est pas banal. C'est pas quelque chose de oh, ils baptisent des bébés, nous on les baptise plus vieux. Ça va beaucoup plus loin que la quantité d'eau et la grosseur du candidat. Il y a toute une théologie, une doctrine, c'est toute notre ecclésiologie qui est en jeu là-dedans. Et dès qu'on ne prend pas garde à cela, on peut très bien travailler ensemble, collaborer puis se respecter au maximum. Mais s'embarquer dans le même bandwagon, là, on vient de changer de mouvance très sérieusement, vous savez. Ou dans le même bateau, peut-être c'est mieux qu'un bandwagon, hein? Faut créer des vagues. Tout ceci pour dire, ça m'a donné en même temps, je pense que je vais reprendre ces idées-là, parce que je dois prêcher dans 3 semaines pour l'Assemblée générale de notre association sur justement Jude 3, l'importance de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Ceci pour dire que on ne doit pas être sectaire, on ne doit pas être étroit, mais il est infiniment important de rester fidèle à nos doctrines, à ce que le Seigneur nous a montré. Nous avons une confession de foi, ce n'est pas uniquement pour décorer la tablette arrière. Nous avons une confession de foi parce qu'elle représente en synthèse notre perception de la parole de Dieu. Avec tout respect qu'on a pour les autres, nous, on est cela. Oui. Et les gens qui se joignent à nous, ben on leur en donne une confession de foi et on leur dit « Êtes-vous d'accord avec cela? » Hein? Et bon, il peut y avoir 2 ou 3 détails avec lesquels ils achoppent, mais ils l'endossent généralement. L'importance de garder la vérité fondamentale. Et je partageais avec ce même frère, on a parlé longtemps. Hein? Nous vivons dans une culture à un moment où il y a une espèce de réveil, ouais, d'une certaine forme de spiritualité chez la jeunesse. C'était pas dans ma génération. Dans ma génération, les gens ne voulaient rien entendre parler de l'Évangile parce que immédiatement ils ramenaient ça à l'église ancienne. Et ils étaient complètement blasés. Il n'était pas question de leur en parler. Et ils ramenaient tout cela à l'église ancienne. Et on n'entre pas dans les détails. Mais la nouvelle génération n'a jamais entendu un discours sur Dieu. Et comme ils n'entendent plus aucun discours, ou qu'ils en entendent peut-être trop, ils ne savent plus à quel sens vouer le terme s'applique, il y a une espèce d'ouverture d'esprit à la spiritualité. C'est formidable. On rend grâce à Dieu pour cela. Maintenant, quel genre de foi, quel genre de spiritualité vont-ils recevoir? Toute la question est là. Voyez-vous. Il y a beaucoup de modèles d'églises où on se rassemble et on attire les jeunes avec la musique plein régime et on fait des communions fraternelles. Et c'est tout à fait musique plein régime, peut-être moins beau, mais la communion fraternelle, c'est certainement très beau. Puis il y a de la parole là-dedans, vous voyez. Maintenant, où ça mène et où ça va mener, on ne sait pas trop. Il y a une chose qui parfois est inquiétante. J'ai beaucoup apprécié ta prière tout à l'heure, quand tu as dit, on arrive au cœur même de notre adoration, la parole, la prédication de la parole de Dieu. Dans l'agenda divin d'Actes 2:42, qu'est-ce qu'on retrouve? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. L'enseignement des apôtres est d'une importance capitale. Je suis tout à fait d'accord qu'on aime beaucoup la musique. Amen, alléluia, c'est céleste la musique. Mais ça ne peut pas remplacer la parole. On va m'amener comme argument, oui, on chante la parole. Amen. Mais chanter la parole puis le kérigme, c'est 2 mouvances différentes. Acte 2:42 nous parle de la proclamation, de la prédication de la parole. Que viennent faire les trois autres éléments après l'enseignement des apôtres? Ils découlent de l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ce qui donnait un sens à la communion fraternelle, ce qui donnait une signification au fait qu'on rompait le pain, et ce qui donnait une substance aux prières. Le kérigme, la prédication de la parole. Il y a différentes manières de se former pour le ministère. Mais à quel point c'est important d'avoir des ouvriers qui sont bien fondés, qui dispensent correctement la parole de Dieu. Et d'avoir dans nos communions fraternelles des capacités d'échanger également à certains niveaux, ce qui nous permettent de faire grandir notre compréhension de ces réalités-là. Mais je suis perdu complètement dans mes notes. Mais est-ce que, savez-vous, j'ai commencé à digresser?
C'est
L'Euphrate, voilà. Merci beaucoup. Wow. Grenouille, Euphrate, oui. C'est intéressant que la parole choisisse des grenouilles pour représenter ces esprits trompeurs. C'est tellement dégueulasse, des grenouilles, hein? C'est dégoûtant, des grenouilles. Mais c'est intéressant que la parole choisisse des grenouilles pour représenter ces esprits trompeurs. C'est probablement en partie de son croassement. Hein, ça croasse une grenouille, ça fait du bruit, mais il n'y a pas de signification comme telle, voyez-vous. C'est en lien avec les trois engendres du mal qui véhiculent la confusion et la tromperie. Et ici, soudainement, tout juste avant de mentionner le site où ce conflit aura lieu, le Seigneur Jésus intervient avec une promesse qui sert en même temps d'avertissement. Out of nothing, hein? Il interrompt pratiquement la vision. Et il arrive avec cette promesse-là. Voici, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et le Seigneur parle à la première personne du singulier. « Je viens comme un voleur. » Une image d'ailleurs qu'il a utilisée ailleurs. Il l'a utilisée dans son ministère terrestre, en Luc chapitre 12, verset 39-40, et aussi dans l'Apocalypse, au tout début, au chapitre 3. « Son retour sera soudain et imprévisible. » Et à la lumière de toute cette conspiration décrite dans les versets précédents, il semble évident que ce retour s'effectuera au moment où les circonstances semblent les plus sombres pour l'Église sur terre. Quand on regarde aux circonstances, on dit « Ah, ça va bien aller » ou « ça va mal aller ». Ça n'a rien à voir. On est de très, très mauvais juges, on fait de très mauvaises exégèses des circonstances qui sont devant nous. Hein, le Seigneur, ses voies sont infiniment plus élevées que les nôtres. Alors, son retour imprévisible, donc, va s'effectuer au moment où les circonstances sembleront les plus sombres pour l'Église sur terre, alors que ses ennemis cherchent son extinction. Et nous avons ici une béatitude divine en faveur du soldat qui reste en veille et pleinement vêtu. Et c'est un riche encouragement en même temps qu'une grande prise de conscience. Jésus a conseillé à l'église de la Laodicée, qu'a-t-il conseillé? De se procurer un vêtement blanc. Hein, de recevoir de lui un vêtement blanc que lui seul peut pourvoir. Apocalypse 3. Et tout ce que Babylone a à offrir représente la nudité et la honte. Quelle exhortation à la sainteté et à la consécration. Tout ce qui est décrit ici se profile autour de nous. Dans sa deuxième lettre, l'apôtre Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14, écrit « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. » C'est intéressant, la justice habitera. Il y avait deux verbes dans le grec hein, pour habiter. Ils avaient d'abord « para oikos », qui a donné en français le mot « paroisse », une demeure temporaire. Mais le verbe ici, c'est « kata oikeo ». C'est va demeurer en permanence, vous voyez. Les choses vont être ébranlées, mais ce qui reste va être en permanence. Kataikos. Le dernier détail du rassemblement des nations pour ce conflit ultime nous donne un nom de lieu, Armageddon. Armageddon, il y a tellement de choses qui ont été écrites sur le sujet de l'Armageddon, on le disait tantôt. On n'a pas cherché sur nos GPS où se trouve l'Armageddon, hein? Comme les autres lieux mentionnés dans notre texte, comme Babylone, comme l'Euphrate, l'Armageddon ne fait pas référence à un lieu spécifique, mais au monde entier. Les battants d'Israël associés à Megiddo, d'où vient le mot Armageddon, et aux montagnes environnantes deviennent typologiques de ce dernier conflit contre les saints. Le Christ qui prend place sur la terre. Et ça m'amène à mon troisième point. La septième coupe représente l'angle final de l'achèvement de la colère de Dieu dans le jugement des humains. Dans le jugement des humains rebelles, bien sûr, rebelles à Dieu et dans la création qu'ils violent. Et la finalité de cette perspective se confirme par la puissante voix de Dieu qui se fait entendre depuis le temple céleste. Verset 17. Petite expression de rien du tout, mais qui est tellement importante. C'en est fait. C'est pas un ange qui dit ça. C'est une voix du trône. Ça vient du ciel. C'est Dieu lui-même qui vient de prononcer la sentence. C'en est fait. C'est le point final, voyez. C'est la ponctuation de l'annonce divine qu'il renouvelle toutes choses, qu'il crée une nouvelle terre et de nouveaux cieux, une déclaration qui ressemble à celle de la croix. Tout est accompli, tétélestai. Tout est accompli. C'en est fait, c'est terminé. Dieu qui vient mettre le point final à toute l'histoire. Cette septième coupe est versée dans l'air en raison vraisemblablement de la dimension cosmique de ce cataclysme-là. Il faut garder à l'esprit que Satan est appelé en Éphésiens 2 le prince de la puissance de l'air. Lorsque Dieu a donné sa loi à Israël, il y a quelque chose de tout à fait semblable qui s'est produit. Dans Exode 19, 16, nous disons, « Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Et c'est ce que nous retrouvons ici dans son apogée, c'est ce que nous retrouvons ici à son comble, au verset 18 et 21. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un très grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. Savez-vous ce que ça représente, ça? Une cinquantaine de kilos. Alors, bien sûr, on est dans le symbolique. Vous sortez dehors avec votre parapluie, puis... Bon. Alors, des grêlons de cette grosseur-là, n'est-ce pas, qui tombent du ciel sur les hommes, et les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis. Ils ont blasphémé Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Et on retrouve, encore une fois, un précédent prophétique de la septième plaie d'Égypte. Cette fois-ci, c'est dans Exode 9. « Voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle était fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux, etc. » Et ceux qui le firent furent sauvés, et ceux qui ne le firent pas, ben, ils ont goûté au jugement, vous voyez. Sur terre, un grand tremblement de terre qui vient diviser la grande Babylone en trois parties, causant la ruine des cités et des nations et la disparition des îles et des montagnes. Zacharie, hein, le prophète Zacharie, avait prophétisé qu'au jour de la bataille du Seigneur contre les nations, lorsqu'il viendra défendre son peuple, un terrifiant tremblement de terre viendra scinder le mont des Oliviers. Chapitre 14, verset 3 à 5. Agée, chapitre 2, verset 6 et 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Et c'est repris dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 26-27. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. toute trace de péché, tout ce qui est toxique sur terre disparaîtra. Et la nouvelle terre sera une maison de justice, alors que la grande Babylone sera la cible, hein, sera le bullseye, littéralement, de cette ultime colère de Dieu. C'est une assurance et une consolation pour l'Église que cette affirmation du verset 19. Dieu s'est souvenu de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone qui a enivré le monde du vin de son immoralité, du vin de sa violence, de sa haine contre Dieu et contre l'Église, fait maintenant face à son jugement et dans tout cela, il nous est rapporté au verset 21, « Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Oui. » Historiquement, il y a des gens qui ont remis en question la réalité de l'enfer. Et même chez les évangéliques, vous savez, étonnamment, disant que c'est un jugement tellement énorme, c'est tellement inimaginable. Ben, pour comprendre la gravité du jugement, il faut comprendre la gravité de ce qui l'a causé. Quand on s'arrête à se questionner sur l'enfer, à savoir est-ce que Dieu est trop sévère, on n'a qu'à lire ces versets-là, comme celui-ci, celui du verset 11, et bien d'autres dans la parole, bon, et on ne se pose plus la question. C'est un jugement plus que mérité, et ça aurait dû être le nôtre. Hein? Alors, en terminant, rappelons-nous quelques leçons à retenir. Premièrement, pas voilà trop insistant, mais quand même, considérons notre compréhension du modèle biblique de l'histoire. La Bible ne nous enseigne aucunement que les chrétiens vont gagner le monde avant le retour du Christ. Nous avons plutôt l'image d'une cité irrémédiablement assiégée par le retour de Jésus. Plutôt que croire que l'Évangile va se répandre à travers les nations et que l'histoire va se terminer, hein? Non, l'histoire va se terminer avec l'orchestration d'une persécution générale des chrétiens. Et devant cette persécution, nous ne sommes pas appelés à répondre avec désarroi ou avec consternation, mais avec une attitude d'anticipation du retour de Christ. La deuxième leçon est si importante que Jésus lui-même intervient au milieu de la vision. Comme on le disait tantôt, c'est presque une interruption de la vision pour une importante mise en garde. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » C'est réconfortant de savoir que Jésus va venir de manière inattendue, comme un voleur dans la nuit, pour juger ses ennemis. Quant à nous, c'est un très sérieux avertissement de demeurer sur nos gardes, de ne pas glisser, de ne pas tomber sous les charmes d'un monde prédateur qui fait constamment défiler ses théories séduisantes. Rappelons-nous la parabole. Un homme avait mis ses serviteurs en charge, il est parti pour un bon moment, et lorsqu'il est revenu, bon, vu que ça avait pris un peu de temps, son serviteur s'était mis à battre les autres. Et c'est tellement facile, après plusieurs années d'attente. Surtout lorsqu'on vient à l'Évangile, on a une attente un peu puérile, un peu infantile, qui va revenir dans 15 prochaines minutes ou quelque chose du genre. Hein? Et comme ça prend du temps, parfois on peut... Ouais, bon, ben, voilà. À quel point la persévérance des saints est une doctrine importante. Et la persévérance des saints n'a d'existence qu'en raison de la persévérance de Dieu avec les saints. Ce qui d'aucune manière ne nous enlève notre responsabilité de persévérer dans les moyens de grâce et de nous surveiller en constance. La troisième leçon, nous vivons dans une brèche, dans un intervalle entre la promesse et la réalité. C'est dire qu'il y a encore de la place pour la repentance au moment où on se parle. Dès qu'on est rendu dans ce texte-là, il n'y a plus de place. Mais aujourd'hui, il y en a encore. Et comme le texte en témoigne, la repentance, c'est une impossibilité au perdu. On est complètement esclave de notre péché. À quel point avons-nous besoin de crier au Seigneur? À quel point avons-nous besoin de crier au secours pour notre manque de foi? Comment serons-nous vêtus au retour prochain de Jésus? D'une robe de justice ou encore des haillons de Babylone? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est à moi de vous dire ce que le texte dit littéralement, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous dit littéralement. Le texte ne dit pas qu'il nous fait toujours triompher en Christ, mais le texte nous dit qu'il triomphe toujours de nous en Christ et qu'il nous fait défiler devant lui, n'est-ce pas, dans sa justice. Christ nous a conquis et nous amène en défilé à sa gloire. Joyeuse Pâque. Amen.